Annie nous a rappelé qu'aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux et puis que nous nous dirigeons tranquillement et de façon très proche vers Pâques. Et j'avais pensé ce matin aborder ce thème justement du parcours de Jésus qui va entrer à Jérusalem. Et j'aimerais souligner ce matin que dans notre société qui devient de plus en plus post-chrétienne, je crois que c'est important que nous puissions, nous, Église, chrétiens, enfants de Dieu, maintenir ces traditions chrétiennes qui ont un certain âge maintenant, qui sont peut-être devenues pour beaucoup des traditions, une fête religieuse, mais qui pour nous est un rappel de vraiment l'accomplissement de ce que Jésus a vécu, a fait, l'accomplissement des prophéties qui étaient données dans l'Ancien Testament pour le salut de chacun d'entre nous, la venue du Messie, la crucifixion de notre Seigneur et sa résurrection. Et je crois que c'est bien de maintenir ce souvenir et de le maintenir de façon, ensemble, hein, pas seulement une église et pas l'autre, mais qu'ensemble nous puissions vraiment nous rappeler de ce que Dieu a accompli à travers son Fils, Jésus-Christ. Et je crois que c'est pas rien, parce que ça lui a coûté la souffrance, ça lui a coûté la vie, ça lui a coûté de porter nos péchés à la croix. Lui, l'agneau immolé avant la fondation du monde et qui est venu pour nous servir, pour mourir pour nous. Je voudrais rappeler peut-être ce beau passage de Philippiens 2 qu'on connaît et qui nous montre vraiment tout cet amour de Dieu pour nous et comment Jésus, lui qui n'a point regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, est devenu un simple homme, a revêtu l'humanité, est devenu un serviteur et qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je crois qu'on pourrait le relire, hein, c'est dans Philippiens au chapitre 2, sauf que j'ai pas mes lunettes, alors là c'est un peu compliqué. Ouais, ça va être compliqué.
À partir de quel verset ?
Le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce beau texte qui nous montre vraiment toute la grandeur, toute la profondeur, toute la largeur, je dirais, de l'amour de Dieu, mais aussi de ce Dieu qui est venu, qui s'est humilié, qui a souffert jusqu'à la croix pour le pardon de nos péchés. Alors revenons maintenant à ce parcours de Pâques, hein, et je crois que c'est important se le rappeler. Et oui, pas seulement à Pâques, hein, bien entendu, on se rappelle régulièrement et on se réjouit de ce que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a sauvés parce que nous étions perdus et qu'il a fait de nous des enfants, qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Ça, c'est une joie que nous avons, je dirais, de façon permanente. Mais ce temps de Pâques est un temps tout spécial où peut-être c'est encore plus évident pour nous, plus fort pour nous, et peut-être c'est aussi un temps où on va prendre encore plus en considération ce que Jésus a accompli pour nous, et le méditer et s'en réjouir, et venir au pied de la croix et simplement être reconnaissant et dire merci Jésus parce que tu m'as sauvé, merci Jésus parce que tu es mort pour mes péchés. Mais parce que aussi tu es ressuscité, parce que tu es ressuscité, je suis justifié et j'ai obtenu et j'obtiens la vie éternelle. Alors, avant de parcourir l'évangile, alors je vais dans l'évangile de Marc. Hein, j'ai réécouté là en venant en voiture le chapitre 9. Où il est question de Jésus qui prend trois de ses disciples, trois des apôtres, Pierre, Jean et Jacques, et il monte sur la montagne, et là, sur la montagne, vous le savez, hein, vous l'avez lu, vous connaissez le texte, il est transfiguré d'une blancheur telle que même partout sur la terre, on ne retrouve pas cet éclat de Jésus. Donc on voit là, quelque part, la divinité de Jésus. Jésus qui est venu du ciel et qui a revêtu l'humanité, qui est devenu un simple serviteur. Mais sur la montagne, il va s'entretenir avec Élie et avec Moïse, et ils vont parler. Et j'imagine que, ils parlent de, son avenir très proche, son entrée à Jérusalem, à Jéricho premièrement, puis à Jérusalem, et puis bien sûr sa souffrance et sa crucifixion et le sacrifice de l'agneau parfait, de l'agneau sans tache. J'imagine cela lorsqu'il s'entretient avec Élie et avec Moïse. Et dans le texte, il est écrit que les disciples, ils sont là, ils sont impressionnés parce qu'il y a cette voix qui vient du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Okay, comme cette voix avait été entendue lors du baptême de Jésus dans le Jourdain. Et donc ils vont dresser trois tentes, des tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais ils sont vraiment, quelque part troublés, et ils sont impressionnés. Ils connaissaient Jésus, qui faisait des miracles, qui guérissait des malades. Jésus qui soumettait, les éléments, comme la mer qui était déchaînée. Jésus qui multipliait les pains. Mais là, il voit quelque part Jésus dans toute sa splendeur, dans tout son éclat, dans toute sa gloire. C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui a une mission et qui va, à partir de la montagne où il y a la transfiguration, il va entamer cette dernière marche jusqu'à Jérusalem. Donc là, si on parcourt l'évangile de Marc, bien sûr, il va rencontrer des personnes. Quand il descend de la montagne, souvenez-vous, il y a cet enfant épileptique là qui tombe dans le feu, et puis on n'arrive pas à chasser le démon, on n'arrive pas à le guérir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Race incrédule, parce qu'il sait que nous sommes incrédules, parce qu'il sait que nous avons du mal à croire. Mais Jésus ne se décourage point, puisqu'il prend les 12 et ils se mettent en route vers Jérusalem. Entre-temps, j'avais été interpellé par sa rencontre avec le jeune homme riche. Vous vous souvenez, hein, qui repart tout triste parce que voilà, il n'a pas eu la réponse qu'il voulait de la part du Seigneur Jésus. Et puis il continue sa route et nous arrivons au chapitre 10 en direction de Jérusalem, hein, bien entendu. Mais avant Jérusalem, il va entrer à Jéricho. Alors nous lisons. Chapitre 10, je suis obligé de m'éloigner, hein, j'ai complètement oublié mes lunettes. 31. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Voilà, hein, Jésus sait ce qui va arriver. Hein. Il sait que l'écriture va s'accomplir, les prophéties vont se réaliser. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivait avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qu'il devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui... Alors là, tu peux me... Quelqu'un ?
Se moqueront.
Qui se moqueront de lui. Voilà. Tu peux continuer, s'il te plaît, Florine.
Cracheront sur lui, ouais, et le battront de verge et le feront mourir. En 3 jours après, il ressuscitera.
Voilà, jusqu'ici la lecture. On voit là, c'est pas la première fois hein, que Jésus annonce sa souffrance, qu'il annonce sa mort et sa résurrection aux disciples. Hein. Mais on voit là dans le texte que les disciples là, ils sont troublés. Dans une autre traduction, ils sont même effrayés et ils ont de la crainte. Alors, on peut imaginer combien ces paroles et combien ce pèlerinage, dirais-je, jusqu'à Jérusalem interpelle les disciples, les trouble et les rend vraiment craintifs. Mais Jésus est là pour les rassurer. Il est devant, il marche devant. On voit là Jésus qui est déterminé, qui n'hésite pas. Il marche devant ses disciples. Il va au-devant du sacrifice, il va au-devant de la mort, il va au-devant de la crucifixion, et il le sait, et il sait que c'est sa mission, il sait qu'il est venu pour ça, pour mourir pour nos péchés, et donc il est devant. Mais on pourrait aussi imaginer que toute cette question-là du sacrifice de la Pâque à Jérusalem où il va être immolé, hein, ça doit quand même pas mal occuper ses pensées dans la marche jusqu'à Jérusalem. Mais ce qui est intéressant là, c'est que il voit ceux qu'il aime, ceux qui l'ont accompagné pendant 3 ans dans la crainte. Il les voit troublés. Et il s'arrête et les rassemble à nouveau pour leur redire que le Fils de l'homme doit être livré, afin que, pour le peuple, il doit être livré et condamné par les chefs religieux. Il leur réaffirme ce qui doit arriver, ce que, les prophètes ont prophétisé depuis bien des centaines d'années, toute l'histoire d'Israël. Et malgré cela, Jésus va fermement jusqu'à Jérusalem avec ses disciples. Il les accompagne et je crois qu'il les soutient, je crois qu'il est attentif. Comme aujourd'hui encore, lorsque nous sommes troublés, lorsque nous sommes dans la crainte, peut-être pensons que Jésus, lui, il est devant. Lui, il sait, lui, il connaît. Il connaît le chemin. Il sait où on va, il sait où nous devons nous rendre. Et il va nous rassurer, il va nous réconforter, il va vraiment nous donner ces paroles dont nous avons besoin pour continuer notre route, dans cette route qui peut-être est parsemée d'épreuves, de tribulations, parsemée de dangers. Continuons. Florine, hein, tu peux continuer à lire. Verset
35.
Ouais, verset 35. Ouais.
Les fils de Zébédée.
Ça, on va le sauter celui-là. Hein. Ah. Excuse-moi. Ça, c'est juste pendant la route là. Il y a Jacques et Jean qui veulent être l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus. Et c'est pas trop la question là. Ils sont un peu, disons, hors sujet. Ils sont vraiment hors contexte. Et ils ne réalisent pas, quand on lit ça, ils ne réalisent pas que Jésus va devoir affronter le pire. Et peut-être qu'eux, ils pensent aussi, à travers ce texte qu'on ne lit pas, hein, peut-être qu'ils pensent que Jésus va être institué ou déclaré roi auprès du peuple de Jérusalem et auprès des dirigeants. Mais ce n'est pas du tout la question. Et c'est pour ça qu'ils ils se disent, est-ce que là, qui serait à droite, qui serait à gauche du roi qui vient, du roi qui va régner. Mais Jésus les reprend, les enseigne et les ramène vraiment à la pensée, à l'enseignement du royaume de Dieu. Hein. Celui qui veut être le plus grand soit le plus petit et qu'il serve les autres. Alors là, tu peux continuer et lire au verset 46,
je pense.
Ouais, c'est vraiment grave. Hein.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin.
Voilà, merci Florine. Voilà un beau passage. Jésus qui, comme je le disais, qui va en route, qui est en route pour Jérusalem, qui s'arrête à Jéricho. Il faut savoir que Jéricho, c'était à l'époque une ville où on fabriquait des parfums, notamment de l'encens. Et c'était une ville où il y avait beaucoup de bonnes odeurs. Vous voyez ? Donc il entre dans cette ville-là et j'ai pensé à ce passage-là ou à cette pensée qui dit que nous sommes une bonne odeur devant Dieu, hein, une odeur agréable. Et Jésus, lorsqu'il rentre dans Jéricho, c'est aussi pour révéler une image qu'il est une bonne odeur agréable. Hein, lorsque nous lisons dans le Lévitique, lorsqu'il y a les sacrifices qui sont faits pour Dieu, hein, sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité, sacrifice de reconnaissance, cela est toujours une bonne odeur aux yeux qui monte jusqu'aux narines de Dieu et qui est une odeur agréable pour Dieu. Et là, lorsqu'il rentre dans Jéricho, nous pourrions dire que Jésus et c'est l'agneau parfait, l'agneau sans tache, qui est une bonne odeur pour Dieu. Et c'est Bartimée, le fils de Timée, qui l'interpelle et qui lui dit « Fils de David ». Alors, nous pouvons voir là que Bartimée, frères et sœurs, reconnaît Jésus comme étant le Messie, comme étant le fils de David. D'ailleurs, il est écrit, par ailleurs, hein, c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David, que le Christ doit venir. Donc, Bartimée, il a cette foi dans le Messie. Il reconnaît Jésus comme étant le Messie. Et Jésus va répondre à son cri. Fils de David, aie pitié de moi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus l'appelle, hein, et Bartimée se lève et jette son manteau. Et lorsqu'il jette son manteau, nous pouvons penser que c'est aussi une image que Bartimée jette sa vie derrière lui. Bartimée va se débarrasser de son ancienne vie, de sa vie, vaine, sans Dieu, pour venir à Jésus, pour recevoir de Jésus, bien sûr, la guérison, mais pour recevoir aussi de Jésus la délivrance et surtout la vie. Oui, ce manteau qui représente la vie ancienne, nous le lisons aussi dans Ésaïe, au chapitre 61, verset 10. Écoutez bien. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car, voyez, il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Donc Bartimée, qui se découvre de son ancienne vie, de son ancien manteau, pour recouvrir le manteau de la délivrance, le manteau de la foi, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme le fiancé se pare de ses joyeux. Et nous avons là une belle image, frères et sœurs, du salut en Jésus-Christ. Nous jetons notre vie ancienne derrière nous, nos péchés sont pardonnés, nous revêtons le manteau de la délivrance et de la vie. Et qu'est-ce qu'il fait, Bartimée? Eh bien, bien sûr, il est guéri et il va suivre Jésus. Et lorsque nous sommes sauvés, frères et sœurs, eh bien, nous sommes appelés à suivre le Christ. Nous sommes appelés à aller sur ses traces, à lui ressembler, à vraiment obéir à sa volonté, obéir à notre Seigneur. Ça, c'est l'image de Bartimée. Et je vous avais cité le jeune homme riche. Le jeune homme riche n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, comme Bartimée. Le jeune homme riche, pourtant, il était, on pourrait dire, plus juste, puisqu'il observait les commandements. Hein, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, tu ne diras point de mensonge. Il a fait tout cela. Mais lorsque Jésus lui dit « Viens, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et donne ta richesse aux pauvres, et suis-moi », le jeune homme riche n'a pas compris que Jésus-Christ est vraiment le Sauveur, celui qui vient pour nous sauver, pour vraiment nous racheter de nos péchés et de la mort éternelle. Et ça, c'est la différence entre Bartimée et le jeune homme riche. Bartimée qui, lui, suit Jésus, alors que le jeune homme riche s'en va. Et il est tout triste, parce qu'il n'a pas compris. Voilà. Et puis, il y a aussi un aspect intéressant dans le texte, c'est qu'il l'appelle Rabouni. Vous savez que Rabouni, c'était le titre honorifique des docteurs de la loi, bien sûr, du temps de Jésus. Et il y a une autre personne aussi, dans les textes, dans les évangiles, qui appelle Jésus Rabouni. C'est Marie-Madeleine, lorsque Jésus l'interpelle à la résurrection, hein, au jour de la résurrection. Elle se retourne, elle le reconnaît, elle lui dit Rabouni. Et Rabouni, il y a aussi une idée de divinité derrière ce mot hébreu. Donc, Bartimée, tout comme Marie-Madeleine, reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant la deuxième personne de la divinité, Dieu lui-même. Voilà, un peu par rapport à Bartimée et ce que Jésus fait, il l'appelle, et avant de le guérir, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Et ensuite il est guéri. Et c'est là où on voit l'importance que, avant tout, ce qui est essentielle pour nous-mêmes, c'est la délivrance de l'âme, c'est la guérison de l'âme, c'est de recevoir la vie et d'être sauvé. Et ensuite, mesdames et sœurs, ensuite viennent la délivrance, la libération, la guérison, la restauration. Ensuite viennent vraiment le rétablissement, comme Dieu le désire pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions être heureux, parce que moi j'ai la conviction que Dieu veut que nous soyons heureux. Et nous le savons, nous sommes heureux, bien sûr, en Jésus-Christ, mais Dieu veut que nous soyons heureux. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Alors, ce n'est pas forcément des bénédictions matérielles, hein, même si Dieu peut nous les accorder, bien entendu. Mais c'est surtout, je veux dire, le repos de l'âme. Ce savoir aimer de Dieu, ce savoir être enfant de Dieu, de savoir que nous avons un bon berger qui nous conduit jour après jour. Voilà. Je voudrais qu'on continue. Donc, Florine, tu peux rouvrir ta Bible. Et on va au chapitre 11. Et on va aller au verset 1 à 11. Et là, nous arrivons, après Jéricho, nous arrivons à Jérusalem, en passant par Bethphagé et Béthanie.
Dans Marc.
C'est toujours Marc.
Je peux y aller.
Ouais, ouais, tu peux reprendre dans Marc.
Alors, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, entrez. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12.
Voilà, jusqu'ici la lecture. Merci. Merci Christian. Lorsque Jésus entre dans Jérusalem, donc c'est les préparatifs de la Pâque. Et la Pâque juive, il faut savoir que ça se célébrait le premier mois de l'année religieuse juive. Aujourd'hui, cette année, c'est à peu près le premier mois, c'est le 4 ou 5 avril. Et 14 jours après cette sortie d'Égypte, ou 14 jours après plutôt ce premier mois, dans le premier mois, nous, les Juifs, célébraient la Pâque pour se rappeler, bien sûr, de la sortie d'Égypte, de la délivrance de l'Égypte et je veux dire le peuple qui a traversé la mer, et puis qui est entré longtemps après dans Canaan. Mais bien sûr il fallait immoler, il fallait sacrifier un agneau, comme nous le lisons dans Exode, un agneau pur et sans tache. Et nous savons que Jésus est l'agneau pur et sans tache. Mais lorsqu'il entre dans Jérusalem, il entre 4 jours avant sa crucifixion, c'est-à-dire le 10e jour, okay, de ce mois, de ce premier mois de l'année juive, le 10e jour. Et il faut savoir une chose, nous le lisons dans Lévitique, c'est que le 10e jour, avant, je veux dire, le 14e jour, justement, avant le sacrifice, les Juifs devaient chercher un agneau pur, sans tache, et devait le mettre quelque part à l'épreuve pendant 4 jours. Ok ? L'observer, regarder, voir s'il avait des défauts, voir s'il était, je veux dire, apte pour le sacrifice. Il le gardait 4 jours. Ça, c'est dans le Lévitique, hein ? Ok ? Et que lorsque Jésus rentre dans Jérusalem, c'est là où on voit vraiment les prophéties, on voit comment la parole s'accomplit d'une façon merveilleuse. Jésus va être mis à l'épreuve pendant 4 jours. Lui, l'agneau. Comment ? Ouais. Alors, pendant 4 jours, il va être mis à l'épreuve, puisqu'il va devoir se confronter, bien sûr, aux chefs religieux, mais il va être aussi acclamé par la foule. Cet agneau de Dieu va devoir, pendant 4 jours, se préparer, tout comme on préparait l'agneau pour le sacrifice de la Pâque, se préparer au sacrifice suprême. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que lorsque il entre dans Jérusalem, toute la foule est en liesse, parce qu'elle veut faire de Jésus celui qui va gouverner, celui qui va peut-être chasser les Romains. Mais, quelque part, toute cette foule saute une étape. Parce qu'effectivement, nous savons que Jésus reviendra avec force, avec puissance, sur les nuées, pour régner. Alors qu'à l'époque où Jésus entre dans Jérusalem, la foule aimerait bien et l'acclame comme roi, l'acclame comme le libérateur. Effectivement, il est le libérateur. Mais la mission, sa mission, c'est de venir mourir pour nous libérer de nos péchés. Et lorsque la foule jette ses branches à ses pieds, ses vêtements, cela est un signe aussi qu'il est reconnu comme étant roi, comme étant le roi, comme étant le Messie. Ok ? Il faut savoir que lorsqu'il jette les palmiers, eh bien, ça ne correspond pas à la Pâque. Parce que la foule, lorsqu'elle jetait les palmiers, c'était à la Pâque, à la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est l'image de l'ère messianique, pour les Juifs. Hein, voilà. C'est cette image-là, c'est ce symbole. Et nous voyons là que lorsque la foule jette ses palmiers, jette ses branches, eh bien c'est vraiment pour acclamer le Messie, et elle reconnaît en même temps que Jésus est le Messie. Donc il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Ok ? Il n'y a pas de hasard. Jésus est le roi, ça a été lu dans Zacharie au chapitre 9, verset 9, hein, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Mais c'est ce qui se vit là. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Il est le salut. Et Jésus, nous le savons, il est venu pour apporter la vie éternelle pour ceux qui croient. Et nous le voyons, il est humblement monté sur le petit d'une ânesse. Il y a aussi 2 rois qui sont montés sur un âne, sur le petit d'une ânesse, les rois David et Salomon. Vous voyez un peu le lien que la foule va pouvoir faire entre le fils de David, hein, et Jésus-Christ, qui lui aussi monte, qui monte sur le petit d'une ânesse. Mais, comme je l'ai dit, cela ne ressemble pas au Messie que les gens attendaient. Ils attendent ce Messie victorieux, ils attendent ce Messie qui va régner, mais bien sûr, nous le savons, Jésus-Christ est venu pour s'offrir en sacrifice pour Dieu. Alors que la prophétie est claire, il doit d'abord venir comme un simple homme, un serviteur pour mourir sur la croix et pour ressusciter. Voilà. Dans Zacharie, au chapitre 12, verset 10, voilà ce que nous y lisons. « Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et les Juifs de l'époque connaissaient cette prophétie, et c'est pour ça qu'ils l'avaient, ramener cette prophétie au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi dans Genèse 49, lorsque Jacob bénit ses fils, il bénit Judas, et il dit de Judas, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Et les gens de l'époque savaient que le Shiloh était le Messie. Donc, c'est comme si ces deux prophéties se réalisaient lorsque Jésus entre dans Jérusalem. Et ils auraient voulu qu'il établisse son royaume. Mais malheureusement, voilà, c'est pas ce qui s'est passé, et ça s'est passé autrement. Une autre chose encore que j'aimerais souligner, c'est que les gens du peuple, lorsqu'ils allaient à la fête, lorsqu'ils se rendaient en pèlerinage à Jérusalem, ils chantaient le Hallel. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Hallel. Ce sont une série de psaumes, à partir du psaume 113 jusqu'au 118, qu'on chantait ou qu'on récitait jusqu'à Jérusalem. Et lorsque le peuple crie « Hosanna », « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, de notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Eh bien, c'est ce psaume 118 qui est aussi un psaume messianique. Donc on voit bien là toute la foule, et une foule nombreuse, et une foule qui vient de loin, et qui vient d'autres pays, hein, puisque les Juifs n'étaient pas seulement dans Israël, qui acclame Jésus-Christ. Qui acclame et qui, chante ou récite ou crie le psaume 118. Voilà. Et nous voyons que les chefs religieux, ils n'entendaient pas la même chose, ils ne voyaient pas la même chose concernant Jésus, puisqu'ils vont l'arrêter et ils vont le condamner injustement et le crucifier. Quel témoignage puissant que cette foule chantait en croyant que Jésus était le Messie. Et nous avons là dans ce texte du chapitre 11, ces premiers versets, un témoignage puissant, un témoignage très fort, voilà, qui doit nous interpeller, qui doit nous impressionner lorsqu'on voit comment la foule acclamait Jésus comme le Messie. Hosanna, qui signifie « Dieu sauve ». Vous voyez, la foule vraiment attendait Jésus comme le Messie. Et Matthieu nous rapporte aussi que tout Jérusalem était ému. Tout Jérusalem était ému. Et que beaucoup de gens étaient venus voir Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus avait ressuscité Lazare. C'est un miracle incroyable. Donc, tous ces miracles, tous ces signes montraient à la foule qu'il était le Messie. Et la foule l'a acclamé comme le Messie. Mais, quelques jours après, la foule crie après Jésus, « Crucifie-le, crucifie-le », à cause de son incrédulité. Je vais arrêter là, on pourrait continuer, mais je voulais vous partager ces quelques passages dans le texte de Marc. Et peut-être, pour conclure, nous amener, voilà, comme je le disais, dans ces temps de Pâques, à méditer, à creuser, à réaliser encore de façon plus grande, davantage, je dirais, la signification de la Pâque pour nous chrétiens. Comme il y avait une grande signification, c'était une fête tellement importante, la Pâque juive, au temps des Juifs, et encore maintenant, puisqu'elle se célébrera au mois d'avril, c'est une signification importante de délivrance, mais pour nous aussi. C'est cette signification, cette, je veux dire, cette réalité de la délivrance de nos péchés pour avoir le salut.